Vous écoutez RTL.
Il est 15h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL et on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour Flavie. Marie, on vous retrouve évidemment à 16h pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure.
Ça me fait vraiment quelque chose de vous dire que l'on se retrouve tout de suite pour parler des émotifs dans On est fait pour s'entendre.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission au poil, c'est le cas de le dire quand même. Hier, entre 15h et 16h sur RTL, vous avez été extrêmement nombreux et réactifs. Et oui, c'est ça, on est fait pour s'entendre. On part d'un sujet a priori léger et tout à coup, c'est une fenêtre sur d'autres échanges beaucoup plus profonds et terriblement passionnants. C'est vrai ça. Qui aurait pensé que nos poils nous auraient tous amenés à parler d'histoire et de politique? Qui? Eh bien, nous, justement. Et c'est pour cela que notre rendez-vous est à nul autre pareil. Il vous ressemble et je vous remercie pour votre fidélité. Tout comme je remercie Ghislain qui nous a apporté une précision indispensable sur notre page Facebook. Non, les poils et les cheveux ne poussent pas après la mort. C'est la peau déshydratée qui recule et qui crée donc cette illusion d'optique. Erreur donc réparée, c'était une mauvaise information. Voilà, passez ces détails glamour. 3210, les réseaux sociaux, saurez-vous vaincre votre émotivité pour partager avec nous aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. S'il vous plaît, composez le 3210. Répondez-vous oui aux questions suivantes. Un compliment et vous devenez rouge. Une question d'un collègue et vous bafouillez. Un silence gênant et vous riez nerveusement. Un entretien d'embauche et vous tremblez. Une remarque désobligeante et vous pleurez. Verdict, vous êtes un émotif et ce n'est pas toujours très agréable à vivre. Alors comment gérer son émotivité et ne plus laisser les émotions prendre le dessus? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Hélène Fresnel, bonjour, soyez la bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie.
Hélène, vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, amie partenaire de cette émission avec Omar Sy en couverture actuellement, qui donne 4 conseils pour apaiser son émotivité dans le numéro qui est actuellement en kiosque. Est-ce qu'on est une société aujourd'hui particulièrement émotive?
Particulièrement dur avec les émotifs, je pense plutôt.
D'accord. Il y a quoi? Il y a une sorte de
oui,
rejet des émotifs aujourd'hui?
Ça ne se fait pas. C'est l'émotivité, c'est une hyper-réceptivité aux émotions.
Mmh.
Et c'est parfois mal perçu, notamment dans l'environnement professionnel.
D'accord. Pas de place à l'émotion aujourd'hui. Il faut avancer, marcher
oui,
droit.
Voilà.
Et surtout ne pas se laisser porter par toutes ces émotions qui peuvent nous submerger. Ça n'a rien à voir avec la vision ou l'éducation judéo-chrétienne que certains auditeurs d'ailleurs nous renvoient en disant voilà, j'ai été élevée, un garçon ça ne pleure pas, une fille ça avance et ça ne pleurniche pas non plus. Rien à voir avec tout ça?
Peut-être que ça a à voir avec ça, mais ça a à voir surtout avec l'idéal d'efficacité et de productivité qui fait que la neutralité est souhaitée généralement dans l'environnement professionnel pour que les rapports soient les plus fluides possibles. Et les émotions, ça vient toujours un petit peu perturber les rapports.
Mmh.
En tout cas, ça...
Une entrave à l'efficacité, en tout cas, qu'on nous demande
voilà,
tous les jours.
En tout cas, ça perturbe beaucoup, beaucoup de salariés, beaucoup de gens qui travaillent.
Mais ça se gère.
Ça se gère, ça apprend.
On apprend à vivre avec. On va en parler également avec nos invités. Catherine Emelet-Périssol, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes thérapeute en logique émotionnelle et formatrice à l'Institut de logique émotionnelle. C'est quoi la logique émotionnelle, Catherine?
Eh bien, la logique émotionnelle, c'est la compréhension de l'émotion comme une interface entre le corps, la biologie, c'est-à-dire quelque chose qui est inconscient et qui nous échappe, et ce que nous en faisons sur le plan psychologique. Voilà, donc la logique émotionnelle, c'est une association de deux termes qui racontent quelque chose du fait que nous sommes un corps et que nous avons un esprit. Et que le fait d'être un corps sera toujours prioritaire avec le fait d'avoir un esprit. Et donc nous aurions intérêt à entendre leur dialogue.
Très bien. Vous connaissez notre autre invité, Pierre Massot.
Mais oui,
puisque
mon
co-auteur. Vous êtes co-auteur, il est consultant, psychopraticien, coach. Ça en fait des choses quand même sur votre carte de visite, Pierre Massot. Et vous êtes co-auteur avec Catherine Emelet-Périssol, donc de Émotion, 7 étapes pour se comprendre, donc chez Albin Michel. En fait, la base même de tout ça, c'est la compréhension de nous-mêmes, la connaissance de nous-mêmes, Pierre Massot.
Je ne sais si c'est la base, mais en tout cas, c'est clairement l'orientation que nous avons choisi de développer avec Catherine dans cet ouvrage, qui est de dire qu'effectivement, la meilleure connaissance de notre fonctionnement, la meilleure prise en conscience de ce qui se passe, notamment lorsque nous sommes face à un épisode émotionnel, est certainement la voie de l'apaisement.
L'apaisement, ça n'est pas un mot choisi par hasard, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les rejeter, ces émotions, mais il faut savoir vivre avec, peut-être les connaître, les accepter aussi pour qu'elles nous traversent.
C'est ça. Je pense que nous aurons l'occasion d'en débattre dans le cadre de cette émission, mais je pense que nous ne sommes pas trop en accord avec la notion de gestion, ni même la notion de contrôle, mais avec une notion qui est plus celle de vivre, comme Hélène le disait, vivre en bon terme avec quelque chose qui a des dimensions qui nous dépassent et que nous ne gérerons jamais.
Eh bien, nous allons donc aider aujourd'hui en direct sur RTL des auditeurs comme Chantal qui dit « Je n'arrive pas à contrôler mes émotions, je peux pleurer de joie comme de tristesse, c'est plus fort que moi. » Loïc qui nous écrit « C'est vraiment difficile de se contrôler, mais j'essaye de gérer comme je peux. » Cri-cri, « Oh que oui, je n'arrive pas à contrôler mes émotions, hélas. » Et puis Nadine, « Moi je suis très émotive et très sensible, de plus je ressens trop les choses qui m'entourent et ça me pose beaucoup de problèmes, ce n'est vraiment pas facile à gérer. » Donc déjà la première chose à comprendre, c'est qu'on ne gère pas ces émotions mais qu'on vit avec, on les laisse aussi peut-être nous traverser, encore faut-il ne pas en avoir peur. Dans un instant, nous allons parler avec Corinne. Je ne sais pas comment Corinne se sent à l'idée d'intervenir sur l'antenne d'RTL, mais on va tous l'aider. Corinne, vous pourrez témoigner dans un instant. A tout de suite avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. On parle d'émotion aujourd'hui, mais nous, l'émotion qui nous étreint à chaque fois que l'on sait que l'on va vous retrouver sur l'antenne d'RTL ou encore sur RTL.fr, cette première émotion, c'est la joie, parce qu'on se dit qu'on a tellement de choses à partager chaque jour et que ça nous fait forcément grandir et avancer. Aujourd'hui, nous sommes dans ce studio avec Hélène Fresnel de Psychologie Magazine, avec Catherine Emelet-Périssol qui est thérapeute en logique émotionnelle, avec Pierre Massot également, qui est co-auteur avec Catherine d'un ouvrage « 7 étapes pour se comprendre sur les émotions » donc chez Albin Michel. Nous parlons des émotifs. Alors c'est vrai qu'on a ce sentiment, Hélène Fresnel nous le disait, qu'aujourd'hui, dans notre monde, pour des soucis d'efficacité, de relationnel, l'émotion n'a pas sa place, comme si c'était une entrave, comme si c'était un handicap que d'être submergé par nos émotions, traversé par nos émotions, ressentir des choses. Alors il y en a certains qui disent comme Caroline, mais c'est attendrissant de montrer ses émotions, cela montre que nous sommes réceptifs à notre environnement, à la vie, à ceux qui nous côtoient. Je n'arrive pas à cacher mes émotions et je l'assume. Et puis il en est d'autres qui le vivent beaucoup moins bien, à l'instar de Corinne qui est en ligne avec nous. Corinne, bonjour, bienvenue dans En effet pour s'entendre. Ça va Corinne ?
Ça va très bien.
Comment vous vous sentez là à l'idée d'intervenir sur cette antenne et sur ce sujet qui forcément génère des émotions ?
Oui, je me sens stressée mais heureuse.
Pourquoi ?
Mais stressée parce que c'est quand même se mettre à nu devant les auditeurs. Ouais. Et alors heureuse de par le fait justement qu'on puisse parler de l'hypersensibilité, parce qu'on fait face à pas mal de rejets dans la société actuelle. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de mettre en lumière aussi ce qu'on ressent et peut-être qu'en mettant ça en lumière, les personnes qui ne sont pas hypersensibles pourront peut-être être plus réceptives aux personnes qui le sont et peut-être qu'il y aura moins de rejet par la suite.
Vous avez le sentiment, Corinne, de ne pas être comprise ?
À certains moments, je sais que je ne suis pas comprise. On me le dit régulièrement.
Qui vous le dit ?
Alors mes proches, de la famille aussi, qui ne comprend pas nécessairement les réactions que je peux avoir. Pour des choses qui, à eux, leur semblent insignifiantes, mais qui ont vraiment beaucoup d'importance à mes yeux. Aussi dans le milieu professionnel. Ça a été très dur pour moi les 10 dernières années. Donc voilà, c'est un peu un mélange d'incompréhension générale.
Qu'est-ce qui vous touche, Corinne ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi sensible ? Dans quelles circonstances est-ce que vous manifestez justement vos émotions ?
Mais je pense que je l'ai toujours été. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. J'ai l'impression de vivre une vie sans filtre. Comme si c'était l'hiver qui neigeait super fort, que j'avais toujours froid. Ou bien comme si la vie pouvait être aussi tellement joyeuse et pleine de soleil. C'est difficile à expliquer. C'est vraiment compliqué à expliquer, mais... Et voilà. Donc là, j'ai l'émotion qui monte.
Oui, mais ça s'entend, figurez-vous. Oui. Et quand je vous parlais tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui manifestez vos émotions ou est-ce que ce sont les émotions qui se manifestent d'elles-mêmes ?
C'est incontrôlable. Ça surgit. ça surgit, et soit on décide d'en avoir peur, comme je l'ai fait la majeure partie de ma vie, soit on les laisse couler, et là, il y a une amélioration, il y a un déclic qui arrive, mais ça surgit. J'ai l'impression que je n'ai aucun contrôle là-dessus. Ça surgit. Voilà.
Alors, c'est marrant parce que, quand je dis c'est marrant, je comprends très bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, parce que j'ai vécu des choses comme ça, et dernièrement, j'ai trouvé sur Internet un tweet qui a été diffusé par un londonien qui s'appelle Aaron. Il s'est amusé à faire la liste de ce qui pouvait toucher son épouse. Et c'est extrêmement attendrissant parce qu'il dit « Ma femme pleure vraiment pour rien du tout. Alors j'ai commencé à écrire les raisons pour lesquelles elle a pleuré ce dernier mois. Elle a découvert que les signes pouvaient être gays et a trouvé que c'était vraiment fabuleux. Elle avait la gueule de bois et elle a vu un petit porcelet. J'ai attendu qu'il fasse sombre et j'ai fait semblant d'être Mr. Badabooker. Je ne sais pas si c'est un personnage d'un film d'épouvante. Un petit lapin a échappé à un renard polaire dans un documentaire. Il n'y avait plus de biscuits à la maison. Elle s'est souvenue que les signes pouvaient être gays. J'ai essayé de lui prendre la main quand elle ne s'y attendait pas. Ça, c'est le côté romantique qui nous surprend. J'ai préparé le dîner après une longue journée. Elle a regardé une vidéo avec un chien et elle a pleuré. Alors, vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est super attendrissant, mais est-ce que c'est le portrait que pourrait peut-être éventuellement dresser Xavier, qui vit avec vous depuis 15 ans ?
Alors Xavier est très gentil, parce qu'il supporte mes montées et mes descentes d'émotions depuis 15 ans, donc je pense que pour lui c'est pas vraiment évident à gérer, mais il y arrive, malgré le fait qu'il continue à ne pas comprendre pourquoi je suis comme ça et pourquoi je peux réagir de la façon dont je réagis, c'est-à-dire que je peux démarrer au quart de tour, mais autant dans la joie et la bonne humeur, comme je peux très vite redescendre dans de la tristesse ou de la colère.
Donc, Et comment est-ce que vous vivez, vous, ce yo-yo émotionnel ?
Je le vivais très mal avant, et mon corps me l'a fait savoir. Donc j'ai fait un burn-out il y a quelques années, et puis j'ai décidé de lâcher prise.
Alors lâcher prise, c'est-à-dire que vous avez décidé d'accepter ces émotions qui vous traversaient ?
Oui, je me suis rendu compte que de toute façon, je ne pouvais pas contrôler le fait qu'elles arrivent ou qu'elles partent. Donc je les laisse arriver et j'essaye de faire comme je peux. En gros, je n'essaye plus de me dompter, de les contrôler, de faire comme tout le monde, de ne pas être sensible, de ne pas pleurer, de ne pas rire, de ne pas donner mon avis. Donc il y a eu un lâcher prise là-dessus, c'est accepter que je suis comme je suis et puis c'est très bien comme ça.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un instant, parce qu'on va laisser évidemment nos invités réagir, parce qu'on sent que vous avez peut-être trouvé des clés aussi pour mieux vivre tout ça. Ça vous a quand même amené à un burn-out, donc vous allez nous expliquer effectivement ce que vous avez vécu. C'est peut-être à force de faire de la résistance, de l'autre côté, les émotions, elles se radicalisent aussi, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis, vous nous expliquerez aussi votre vie, parce que Corinne, vous avez choisi un métier qui vous permet d'éviter en tout cas d'être en contact trop avec les autres. Heureusement, vous nous écoutez sur RTL. On va se retrouver tout de suite, Corinne, d'accord ?
À tout de suite.
À tout de suite, merci.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci Laurine pour votre tweet. Oh, une émission faite pour moi, parole d'hypersensible. Alors justement, c'est quoi un hypersensible, Pierre Massot ?
Si on prend juste le terme, c'est quelqu'un qui a peut-être un niveau de sensibilité un peu supérieur à une moyenne. Mais c'est vrai que quand on écoute le témoignage de cette jeune femme,
Corinne,
on se rend compte que c'est l'entourage qui lui renvoie quelque chose qui est différent. Or, en fait, s'agit-il réellement d'hypersensibilité ? On pourrait tout à fait considérer que son environnement était hyposensible, pourquoi pas ?
Oui, Corinne, est-ce que vous pouvez justement répondre à cette question que soulève Pierre Massot ?
Écoutez, je ne sais pas si je suis dans un environnement hyposensible, parce que mon fils est hypersensible également, et ma fille est dotée d'une certaine sensibilité aussi. Mais c'est vrai que je me rends compte que je perçois des émotions beaucoup plus fortement que les personnes que je côtoie en règle générale.
Hélène Fresnel, vous vouliez revenir sur l'enfance de Corinne ?
Oui, en fait, à partir de quand est-ce qu'elle s'est dit qu'elle n'était pas comme les autres et qu'elle le ressentait, que vous ressentiez plus que les autres, peut-être que vous réussissiez, en tout cas moins que les autres, à masquer les émotions qui vous traversent ?
Je pense que c'est à partir de l'école primaire où je me suis vraiment rendu compte que j'étais beaucoup plus émotive que mes petits copains et mes petites copines de classe. Je pouvais m'émerveiller devant un bricolage avec des boutons.
J'étais comme ça aussi.
Parce que je trouvais le bouton magnifique avec ses paillettes et que ça me faisait penser à un soleil et que le soleil c'était les vacances et que les vacances étaient super gaies. Enfin, voilà. Et que je trouvais aussi les enfants méchants entre eux et je pleurais parce que un de mes petits copains avait tiré les cheveux d'une de mes petites copines et je pleurais à chaudes larmes parce que enfin je trouvais ça tellement injuste.
Je comprends. Catherine aime les périssoles. Quand on écoute le témoignage de Corinne, donc déjà toute petite, elle avait une façon de voir le monde qu'on pourrait qualifier. Et alors, ça vient vraiment pas de moi, mais justement, on va revenir sur le regard qu'on porte sur la sensibilité des gens, qu'on pourrait qualifier un peu genre monde de bisounours, où il faut s'endurcir, il faut se tanner le cuir, on n'y arrivera pas comme ça. Est-ce qu'effectivement, l'hypersensibilité ou l'ultra-sensibilité, c'est quelque chose de moqué? On a par exemple One Chronic Show qui nous envoie l'hypersensibilité. Sort de l'ombre grâce à RTL et grâce à Flavie aujourd'hui, cet handicap de la vie qui est encore moqué.
C'est vrai, c'est fou. Dans une société, notamment on le voit dans la cour de récréation, à l'école, à la crèche hein, même, on le voit, combien l'expression émotive est très rapidement considérée comme un problème à traiter.
C'est vrai.
Donc plutôt que d'entendre la façon dont l'émotion témoigne d'une ouverture à ce qui existe, et là, l'histoire des boutons vus comme des soleils, je vous entendais, Flavie, dire moi aussi. donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'émerveillement
oui,
aussi.
Exactement.
Bon, et donc cette sensibilité, c'est notre faculté que nous avons tous à s'émerveiller de ce qui est. Et qui est, limitée, et je trouve dans notre société actuelle terriblement limitée au profit de la rentabilité et de la performance, qui fait que cette aptitude de sensibilité, qui est notre façon d'être en rapport au monde, est aujourd'hui terriblement canalisée, limitée dans ce qu'il faut être, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ce qui fait qu'on a même réussi à nous donner l'image d'émotions positives et d'émotions négatives, ce qui est complètement aberrant, parce que l'émotion, c'est juste une façon d'être au monde, avec des tonalités différentes, avec des tonalités de colère, des tonalités d'émerveillement, des tonalités d'élan, des tonalités de peine, de peur, et que c'est d'abord ça. Et les hyper-émotifs sont surtout des personnes qui, n'ayant pas eu un rapport juste avec leur propre émotivité, du fait d'un environnement, mais du fait peut-être que ça leur a causé quelques troubles et quelques problèmes, et donc des expériences difficiles, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça déborde, plutôt que d'être accueilli comme ma façon à moi d'être en rapport au monde. Et c'est ça, c'est là qu'il y a effectivement d'autant plus d'hyper-émotivité.
Rapidement, Pierre Massot, vous avez entendu Corinne nous expliquer tout à l'heure qu'un jour, elle est allée jusqu'au burn-out. On reviendra sur les conséquences un petit peu plus tard. Mais est-ce qu'on peut dire effectivement à Corinne qu'elle a trouvé la clé, quoi, puisqu'elle a décidé un jour de vivre avec ses émotions, de les accompagner, de les laisser la traverser. Est-ce que ça fait partie des premières...
Absolument. Elle a employé des mots qui étaient tout à fait intéressants, comme le lâcher prise, comme l'acceptation. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Catherine, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça me fait penser à une personne que je suis actuellement, dont en fait le sujet, c'est d'être trop empathique. Ça fait rêver.
Je comprends.
Que dans l'entreprise, vous auriez quelqu'un qui aurait une telle capacité à pouvoir comprendre les autres que ça poserait problème. Et donc, c'est exactement la même chose. Et pourtant, on n'est pas forcément dans un contexte d'hypersensibilité. Mais manifestement, effectivement, Corinne, elle a trouvé des ressources. Alors, on va y revenir, puisqu'elle a changé de cadre professionnel. Mais
ouais, elle s'est isolée.
C'est ça. Elle a aussi trouvé des ressources pour mieux le vivre.
Corinne, malheureusement, on ne va pas pouvoir passer l'après-midi ensemble, mais moi, j'aurais adoré, parce qu'on se comprend. Il y a Catherine Imbert qui a envoyé un tweet. Ce n'est pas parce que nous avons une façon différente de voir le monde, c'est que nous le voyons. Et c'est vrai que c'est une façon, effectivement, d'être particulièrement présent à l'existence. En tout cas, vous allez rester à notre écoute, Corinne. On a réussi à se parler. Vous voyez, c'est génial, quand même. C'est super. On a réussi à le faire sans encombre. Et puis surtout, vous nous aurez vraiment bien expliqué ce que vous vivez. Et je vous en remercie. Et je me permets de vous embrasser. Et puis restez à notre écoute, surtout Corinne.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Prenez soin de vous et de vos enfants. Oui. À bientôt. Salut, merci. Corinne, au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je suis hypersensible, nous écrit Jess Poussinette sur Facebook, et ça gâche bien les choses. Alors justement, on en parle avec vous aujourd'hui, parce que est-ce que ça gâche véritablement les choses que d'être sensible et d'avoir sa sensibilité au monde? Catherine Emelet-Parisol, vous vouliez rebondir au tweet que j'ai lu de Catherine Imbert qui dit « Voilà, nous voyons le monde parce que nous sommes sensibles ».
Oui, c'est l'idée selon laquelle nous pourrions avoir un rapport direct au monde plus ample, parce que nous sommes hypersensibles, c'est biologiquement parlant, ce n'est pas juste. Nous sommes tous des êtres subjectifs et nous avons énormément de mal à reconnaître que nous sommes des êtres subjectifs au profit de... Moi, je vois, ce que je vois, c'est mieux, c'est plus précis, c'est plus clair, c'est que toi. Et donc, notre vision à nous, elle nous est singulière. Et c'est ça, souvent, que nous avons du mal à assumer, à reconnaître, à admettre, qui fait que nous pouvons écouter celle de l'autre et que ça va nous enrichir. Mais nous ne voyons pas le monde en dehors de la singularité de nos expériences. Et c'est ça que nous avons du mal à faire. Et c'est ça, d'ailleurs, qui nous ramène au corps, puisque la façon dont nous voyons le monde est fonction des expériences corporelles que nous vivons.
À propos du corps, Steven nous écrit « Le jour où je suis passée à l'antenne avec vous, on vous embrasse Steven, je me souviens très bien, j'étais rouge écarlate, je parlais vite et je transpirais énormément. Et puis Fabrice, je suis très émotif et j'y succombe. » C'est joli, succomber, oui. Comme on succombe en amour. Régulièrement, c'est sans doute le plus gros paradoxe avec mon physique imposant. Je fais avec, mais ce n'est pas toujours facile. Fondre en larmes en public n'est pas toujours évident. Peut-être encore plus pour un homme, on reviendra justement sur l'éducation. C'est un élément du corps. Les émotions, comme vous le disiez, Catherine Emelet-Parisol, c'est vrai, Hélène Fresnel, on ne peut pas dissocier. Et les manifestations physiques de nos émotions sont là, nous expliquent effectivement à quel point on ne peut pas tout dissocier.
Une émotion, c'est d'abord un trouble physique, un événement du corps. Et c'est dans un deuxième temps que nous allons l'interpréter. Il y a une très belle phrase d'un philosophe qui s'appelle Wittgenstein, que j'aime beaucoup, qui dit « Le corps humain est la meilleure image de l'âme humaine ». Voilà, c'est une manifestation, l'émotion, c'est une manifestation de l'expression de notre âme.
Ce qui m'amène d'ailleurs à vous préciser que très prochainement, nous vous proposerons une émission sur les troubles psychosomatiques, parce que c'est pas mal aussi dans le genre esprit et corps. Pourquoi est-ce qu'on a peur de nos émotions physiques, Pierre Massot ? Par exemple, c'est vrai que quand la colère nous submerge, quand la tristesse, vous savez, quand on sent une vague de tristesse qui vient sur nous, ces émotions-là nous font peur parce que la traduction physique est parfois profondément désagréable.
C'est bien là tout
c'est
le problème.
C'est ce qu'on essaye de gérer.
C'est bien là tout le problème. C'est que le message d'alerte du corps est un trouble. C'est un mal à l'aise. C'est ce que nous disons très simplement. Nous sommes mal à l'aise, pour ne pas dire que nous pouvons éprouver de la souffrance. Et aussi bien est-ce troublant pour soi, mais dans le monde dans lequel nous vivons, il faut reconnaître que ce genre de trouble n'a absolument pas bonne presse.
Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur les enfants, puisque vous parlez du monde dans lequel nous vivons. Les enfants sont traversés par des émotions. Les enfants se laissent envahir par leurs émotions, piquent des colères, donnent des coups de pied, castagnent leur doudou, pleurent, rient aux éclats. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne s'abandonne plus aux émotions, Pierre Massot ?
Ça nous emmènerait un petit peu loin au niveau
Non, mais c'est l'éducation, c'est la société, c'est quoi ?
Nous avons un cerveau.
Catherine Emelet-Parisol.
Bonne nouvelle, nous avons un cerveau. Et oui. Avant d'être un être pensant, nous sommes un être vivant. Et l'enfant, avant d'avoir tout un réseau de cognition et d'apprentissage à partir duquel il va parler, concevoir et penser, il est d'abord son corps. Et donc, il vit l'émission aussi.
Aussi, d'ailleurs.
Aussi. L'émotion en direct, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus en contact avec sa réalité corporelle que nous ne le sommes au fur et à mesure que nous développons des capacités cognitives qui ne se développent que plus tardivement.
Mais est-ce que, Pierre Massot, je vous ai interrompu, est-ce que c'est aussi une question d'éducation, selon vous ?
Ça peut être une question d'éducation, mais c'est très marqué par, globalement, l'environnement socio-culturel dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, comme je le disais, la souffrance n'a pas bonne presse. Quand on voit même au niveau... Hélène, tout à l'heure, vous en parliez dans l'entreprise, le diktat de l'efficacité, le diktat de la conformité, le diktat de la performance, fait que tout ce qui est trouble, tout ce qui est mal à l'aise, n'a pas droit de citer et doit être évité. D'où l'urgence à le gérer.
Évidemment, et on va d'ailleurs vous expliquer bientôt comment le faire. Un message qu'on a reçu d'Anne-Marie sur lequel justement je voulais rebondir, Pierre Massot. Petite, j'avais interdiction de pleurer et donc interdiction d'être triste. Rire, je pouvais, avoir peur aussi et les colères totalement réprimées. Ça a donc été très compliqué jusqu'à ce que je découvre l'analyse transactionnelle et le fait que chaque être humain a le droit à ses quatre émotions fondamentales. J'étais devenue une championne du monde de l'autodérision pour cacher ma tristesse. La société judéo-chrétienne avec ses interdits et le soin un homme, mon fils, demande souvent aux petits garçons de ne pas pleurer ou de ne pas avoir peur. Ils refoulent donc leurs émotions et comme celles-ci sont interdites, on peut avoir des petits garçons très en colère alors que souvent il suffirait de les rassurer ou de les cajoler. Ce qui vaut aussi pour les filles. Est-ce qu'en termes d'éducation, Catherine Emelet-Parisseul, il faut expliquer à nos enfants que tout ça est normal, il faut les laisser pleurer, il faut les laisser vivre leurs émotions pour justement qu'ils comprennent, comme le disait Hélène Fresnel, que ça fait partie de leur identité, de leur corps.
Il faut bien l'entendre.
Et les rassurer.
Bien sûr, il faut bien entendre qu'un enfant, même s'il trouve une autre façon que les hurlements et taper sur tout ce qui bouge autour de lui, donne l'apparence de réfréner sa colère, le processus à l'intérieur de son corps demeure. Donc il va trouver d'autres voies.
Des stratégies.
Il va trouver d'autres stratégies pour exprimer le trouble et la souffrance de son être dans une situation à laquelle il est confronté. Donc l'idée selon laquelle on m'a interdit d'être en colère, donc je ne suis pas en colère, n'est pas une idée suffisante. Il est à entendre que quelque chose est en contrariété, on va dire, à l'intérieur, et c'est toujours porté par le corps, jusqu'à des pathologies d'ailleurs corporelles, psychiques, parce que c'est un mouvement complètement naturel et nous n'avons pas le contrôle. C'est notre façon d'être en rapport avec l'extérieur et donc on ne peut pas y échapper. Donc un enfant qui dit on m'a interdit d'être en colère donc j'ai déprimé, il y a quelque chose qui n'est pas suffisant pour le comprendre.
J'entends. Et One Chronic Show qui nous envoie un tweet, on m'a tellement traité de caliméro ou d'hystérique que j'ai cessé de montrer mes émotions. Et puis Charline qui nous parle du lâcher prise et Mathilde qui dit je suis une personne émotive, ça me gêne énormément dans la vie de tous les jours, donc en quoi ce trait de caractère peut-il devenir une force? Eh bien en restant sur RTL, car dans un instant Pierre Massot, Catherine Emelet-Parisseul et Hélène Fresnel vont justement nous expliquer comment vivre mieux nos émotions. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, chaque jour, quand nous vous proposons des sujets de réflexion et de partage, on essaye évidemment de vous toucher en plein cœur dans tout ce qui vous touche, vous préoccupe aussi, vous interpelle, en tout cas tous ces sujets qui vous concernent. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément imaginé à quel point vous pourriez réagir. On a vraiment le sentiment qu'on a tous des cœurs qui battent à l'unisson, qu'il y a plein d'émotions comme ça qui circulent entre nous entre 15h et 16h sur RTL. Vous êtes extrêmement nombreux donc à nous laisser des messages aujourd'hui sur la façon dont on peut vivre nos émotions, en tout cas apaiser notre émotivité. Alors on va vous donner des pistes. Charline nous parle donc du lâcher prise, Georges qui nous dit il ne faut pas lutter, il faut s'accepter, s'aimer ainsi, et vous verrez, c'est aussi du bonheur. Et à propos de bonheur, tout à l'heure nous passerons un petit coup de fil à Marie-Claude qui nous a appelé pour nous expliquer à quel point elle, ça la rend heureuse aujourd'hui de vivre avec ses émotions. Néanmoins, pour ceux qui se sentent envahis et qui considèrent les émotions comme intrusives, qu'est-ce qu'on peut leur dire, Catherine Emelet-Parisseul?
Alors, heureusement, il y a l'article que Hélène a écrit,
dans Psychologie
vraiment
Magazine.
Super. Mais il y a un élément sur lequel, un élément qui est vraiment d'actualité au sens où les neurosciences nous ont quand même ouvert une vision du fonctionnement du cerveau qui est une source véritablement de libération justement par rapport à cette émotivité. On découvre que mieux on connaît le fonctionnement même de cet organe dans lequel, à partir duquel naissent nos émotions, plus on peut se libérer de cette hyper-émotivité. Pourquoi ? Parce qu'on constate que le conflit qu'on a souvent avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre professionnel ou autre, naît d'un conflit entre une part archaïque qu'on appelle le cerveau reptilien et un autre espace, on va dire, cérébral, qui est celui des apprentissages et de la sociabilité. Et lorsqu'il n'y a pas d'alignement entre ces deux niveaux de traitement de l'information, ces deux niveaux de façon d'être en relation avec son corps et le monde environnant, à ce moment-là, il y a conflit, et ce conflit se traduit justement par cette émotion, cette émotivité, voire cette hypersensibilité. Et donc, mieux, et là vraiment on commence de mieux en mieux à connaître comment il y a cette superposition de cerveau, un cerveau très archaïque, très reptilien, donc qui date, hein. Et puis le cerveau qui a acquis les apprentissages, qui est le cerveau du connu et qui est le cerveau de la mémoire, et puis en plus une fonction, ce qu'on appelle le néocortex, qui elle cherche à traiter l'ensemble pour pouvoir être en relation au mieux les uns avec les autres. Et donc c'est un mieux comprend comment ça fonctionne, plus on a de chances de pouvoir aligner et justement se réconcilier, ce que dit votre auditeur, c'est-à-dire pouvoir se laisser exister comme nous sommes.
Alors, très bien, le fait de le comprendre, c'est une chose. Après, dans la pratique, Pierre Massot, quand j'ai les données, effectivement, que vient de nous donner Catherine Emelet-Périssol, d'abord, ça permet, le fait de comprendre, ça permet de prendre un petit peu de hauteur et de vivre les choses en se disant que tout ça est bien normal. Mais après, si je veux transformer mes émotions en force, si je veux être présent au monde grâce à mes émotions, mais sans pour autant avoir le sentiment d'être vulnérable. Qu'est-ce que je fais ?
Ça a été dit, et là je vais aller exactement dans le même sens que celui de l'article d'Hélène et de ce que vient dire Catherine. Le premièrement, si on doit parler d'itinéraire, c'était d'ailleurs ce que nous donnait Corinne, le premièrement, c'est d'avoir la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Car faute de cette conscience, ce n'est pas l'information reptilienne, archaïque, celle du cerveau du bas, comme vous le disiez Hélène dans votre, dans votre article, qui va être prise en compte, mais toute la fantasmagorie du cerveau du haut, qui lui a comme caractéristique de pouvoir imaginer, tirer des plans sur la comète et surtout projeter dans le futur, etc. etc. Et donc, à défaut de prendre en compte l'information du bas, l'information archaïque, la véritable information, c'est-à-dire le choc culturel, eh bien nous basculons dans quelque chose qui est irréel, que nous prenons pour la réalité.
Oui.
Et donc, typiquement, tout à l'heure, le témoignage que vous évoquiez de quelqu'un à qui on a interdit de ressentir ou d'avoir telle et telle émotion, je le rencontre, moi, pour ma part, régulièrement, notamment spécialement dans l'entreprise, de personnes qui ont des comportements qui sont finalement rédhibitoires à leur performance ou rédhibitoires au travail en équipe, qui sont en fait essentiellement dus au fait que l'information archaïque de base, du type cette situation me fait peur, du type je me sens menacé, n'est pas prise en compte. Donc je crois que le premièrement à partager avec nos auditeurs, c'est de prendre en compte ce qui se passe dans le corps. Parce que c'est là que ça commence.
Donc c'est l'acceptation.
Oui. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, Flavie, c'est que ça se produit.
De toute façon, quoi qu'il arrive, oui. Jean-Xavier, que l'on connaît et qu'on embrasse, bégaiement, tremblement, main moite, on parle de moi, une galère surtout pour un entretien d'embauche, traduit un manque de confiance. Accepter que ces émotions nous traversent, c'est aussi quelque part savoir qu'elles vont partir. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, Catherine Emelet-Périssol, mais que justement, elles nous traversent, c'est-à-dire que plus on va lutter contre, plus elles vont se renforcer pour s'installer. Alors que si on les laisse passer, ça
plus pèse. On va lutter contre et plus on va surenchérir un monde virtuel dans lequel je n'éprouve pas ce que j'éprouve.
Oui.
Et c'est ce que dit Pierre, c'est-à-dire c'est le monde fantasmagorique selon lequel je ne serai pas touché par ce qui me touche, et juste une espèce d'idéalisation qui fait que ça déploie encore plus et que l'émotivité ou la sensibilité devient une hyper-émotivité. Plus je veux contrôler, plus pire c'est.
Alors on a Lydie Sonia qui nous écrit « Je suis très émotive et je pleure pour un rien. Comment contrôler mes émotions ? Aidez-moi. Pleurer. » Non mais pleurer.
Pleurer.
Catherine Emelet-Périssol.
De toute façon.
Parce que quand on pleure un bon coup, quoi.
Oui, alors. En tout cas, c'est une des réponses du corps.
Voilà. Bon. Donc, j'ai pas toutes les réponses, hein, Lydie Sonia, mais au moins je dis pleurer. Moi, quand j'ai envie de pleurer et que j'essaie de pas pleurer, bah, finalement c'est pire. Donc, je sais pas, pleurons un bon coup. Et retrouvons-nous sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, Pierre Massot, Lydie Sonia nous a expliqué qu'elle est très émotive et qu'elle pleure pour un rien. Moi, je lui disais justement pleurer parce que j'ai le sentiment que quand on pleure, au moins, les émotions passent et puis ça nous apaise et ça nous soulage. Alexandra, qui est la productrice de cette émission, dit oui, d'accord, mais il y a pleurer chez soi. Et là, c'est peut-être plus facile que de pleurer en public. Comment est-ce qu'on gère effectivement ce genre d'émotions quand elles surviennent à des moments où on a le sentiment d'être handicapé, Pierre Massot ?
Une fois encore, je ne sais pas si on gère nos émotions.
Non, mais je, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Ah, tout à fait. En tout cas, par rapport aux larmes, quand votre auditrice dit « je pleure pour un rien », ça ne paraît pas tout à fait exact. Il y a quelque chose qui s'est produit...
Qui fait pleurer.
Qui fait que je pleure. Mm. Et la clé, en tout cas, une des clés que nous pouvons partager avec nos auditeurs, c'est que c'est la connaissance de notre processus émotionnel et donc la prise en compte de ce qui m'a fait pleurer, de cette épreuve qui a déclenché les larmes, c'est certainement là la porte de sortie.
Ou de cette fragilité générale. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est une recherche que l'on peut faire en faisant un travail sur soi aussi, hein, qui permet... Catherine Emelet-Périssol.
Qui peut se faire sur le moment. C'est-à-dire, bien sûr, qu'il y a la notion de travail sur soi qui est petit à petit ce chemin que chacun peut accomplir. Mais sur le moment, le fait de se laisser entrer en contact, en rapport avec ce qui est présent dans son corps, qui peut être le serrement d'une poitrine, une gorge nouée, plus de jambes, le ventre noué, la tête dans un étau, enfin, toutes ces manifestations sensorielles, le fait d'entrer en rapport avec elles est une façon, justement, de nous apaiser par l'intérieur. C'est-à-dire que l'apaisement ne peut pas venir par l'extérieur, ça c'est évident, mais nous pouvons acquérir un plus grand apaisement, c'est-à-dire diminuer l'intensité de l'émotion uniquement en entrant en rapport avec la façon dont le corps éprouve ce qu'il éprouve. Et donc ça c'est vraiment fondamental. Je ne vais pas dire que ça va faire automatiquement arrêter de pleurer, mais déjà de sentir ce que ça nous fait... ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire ce rapport qu'il y a entre ce que je perçois et ce que je sens. Il y en a un, et ce n'est pas la peine de se raconter qu'il n'y en a pas, il y en a un, et nous pouvons entrer en rapport avec.
Avec une certaine humilité peut-être aussi,
une
Catherine Emelet-Périssol, puisque à travers ce que vous allez nous raconter, Hélène Fresnel, c'est bien la preuve, vous nous parliez d'une expérience que je vais vous demander de partager avec nos auditeurs, c'est bien la preuve que c'est plus fort que nous. C'est comme les jeux vidéo, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est plus fort que toi, les émotions.
Ah bon ?
Expliquez-nous.
Les jeux vidéo, non. Non, en fait, je vous parlais
c'était
d'un...
C'était Sega, c'était une vieille marque. Sega, c'est plus fort que toi, années 80.
Ouais. Bon, c'est juste en fait un reportage que j'avais fait à la Salpêtrière, dans un atelier qui apprenait aux gens à gérer ce qu'on appelle l'érotophobie. L'érotophobie, c'est la peur de rougir. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas traiter le rougissement, mais on prétend essayer d'apprendre aux patients à moins avoir peur de leur rougissement. Et surprise, quand j'ai fait cet atelier, je me suis retrouvée avec beaucoup d'hommes. Et des hommes très émouvants, dont la carrière avait été freinée par leur rougissement intempestif, et certains d'entre eux avaient été jusqu'à se faire opérer et couper le nerf sympathique pour ne plus rougir. Mais malgré cette intervention, ils avaient quand même la sensation de continuer à rougir, alors que physiquement, ils ne rougissaient plus. Donc en fait, l'émotion n'était pas partie, sa manifestation était partie, mais eux gardaient toujours ce malaise en eux. Voilà, et donc c'était un atelier assez émouvant, en fait.
Voilà, ressentir l'embrasement, même s'il n'est plus forcément visible.
Même s'il n'est plus physiologiquement présent.
Laurent nous écrit « Mon émotivité m'empêche depuis des années d'exprimer mes sentiments, même avec mon épouse, et c'est réellement un handicap. Pendant des années, elle pensait que j'avais un cœur de pierre jusqu'à ce que je lâche doucement prise. » Catherine Emelet-Périssol, est-ce qu'effectivement, à force de vouloir contrôler absolument nos émotions, on finit par se verrouiller.
C'est le risque. C'est le risque, c'est un risque extrêmement important, puisque pour que le sentiment soit habité, il y a quelque chose de l'émotion, il y a quelque chose de l'élan, il y a quelque chose du mouvement, il y a quelque chose qui est du rapport avec l'autre. Et donc, vouloir contrôler ses émotions, c'est prendre le risque de se priver du sentiment, c'est-à-dire du rapport d'ouverture à l'autre, du rapport d'amour à l'autre. Donc c'est un véritable risque, et cette omniprésence du terme « contrôler, gérer l'émotion » va complètement à l'encontre de ce qui nous nourrit les uns avec les autres, des sentiments que nous pouvons avoir et de l'amour que nous pouvons éprouver les uns avec les autres. Et donc c'est contre-productif, c'est vraiment quelque chose qu'il est impératif de dénoncer, j'allais dire, parce que nous ne pouvons pas véritablement devenir des êtres humains dans ce rapport de contrôle avec nos émotions.
Voilà, et on embrasse donc Laurent. Et puis alors, Jean-Xavier vient de nous envoyer un tweet, et c'est vrai que parfois, à la faveur d'un moment heureux de l'existence, on lâche prise peut-être. Donc parfois, c'est l'arrivée d'un enfant. Jean-Xavier qui nous écrit: depuis la naissance de ma fille, mon émotivité s'est accrue pour une performance sportive, pour un beau livre, pour une chanson. Les larmes me viennent. Est-ce qu'il faut aussi parfois avoir confiance en l'existence? Parce que effectivement, parfois, on apprend finalement les émotions à la faveur d'un bel événement.
Merci de cette opportunité, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut apprendre à être justement ému, à avoir une émotion mesurée, c'est-à-dire à la fois très fidèle au fait que nous sommes des êtres vivants en rapport les uns avec les autres, et en même temps mesurée, puisqu'il n'est pas question non plus que ce système émotionnel nous envahisse. Donc ça s'apprend. Et qu'il y a des tas d'événements dans lesquels, effectivement, se reconnecter à l'élan de la vie, comme l'arrivée d'un enfant, c'est une magnifique façon d'apprendre.
Pierre Massot, ça s'apprend à tout âge ?
Oui, absolument.
C'est intact en nous, ces émotions ?
Absolument. Je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus intimement lié à la vie. Ne plus être ému, c'est ne plus être en vie.
Hélène Fresnel, après avoir signé ce papier dans Psychologie Magazine, est-ce qu'effectivement vous faites partie de ceux comme Marie-Claude? Malheureusement, Marie-Claude, on n'aura pas le temps de se parler, mais je suis persuadée qu'on trouvera une autre occasion. Marie-Claude qui veut nous parler des côtés positifs de l'hypersensibilité, comme on le dit. Effectivement, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que plus on est sensible, plus on est présent au monde qui nous entoure, et plus on peut décoller vraiment vers des choses qui nous épanouissent?
Oui, et puis c'est aussi apprendre vraiment à accepter cette âme sentante en nous. Voilà. Oui. Il y a un grand monsieur de la psychanalyse qui s'appelle François Roustan qui dit quelque chose que j'aime beaucoup, qui dit: le moi qui prétend, qui raisonne et qui veut a toujours perdu d'avance. Voilà. Il faut accepter être un peu modeste et accepter cette âme sentante et pas forcément vouloir toujours tout contrôler. Voilà. C'est impossible.
Et nous, on a gagné, évidemment, à parler et à échanger avec vous. On se retrouve tout de suite. Je vais vous conseiller Psychologie Magazine, les ouvrages de nos invités, et vous parler du programme de demain. Tiens, à propos d'émotions, on sera servi, justement. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Il me reste que quelques secondes pour vous remercier, Hélène Fresnel, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous conseille donc Psychologie Magazine avec Omar Sy en couverture, et un dossier extrêmement important et intéressant sur le couple et sur les émotions. Catherine Emelet-Périssol, je rappelle logique-émotionnel.com. Vous nous en avez parlé, on en saura plus en allant sur votre site. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'être venu aujourd'hui. Merci Pierre Massot. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Catherine justement d'émotions, 7 étapes pour se comprendre chez Albin Michel. Merci à vous trois. Merci à vous tous. Un clin d'œil à Stéphane qui nous écoute d'Australie. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Et puis nous, on se retrouve demain pour parler des belles-mères. Vous savez, celle qui a mis au monde notre compagne ou notre compagnon, celle qui pose sur nous le regard courroucé et jaloux de l'être dépossédé. J'exagère peut-être, mais peut-être pas justement. Les belles-mères à l'honneur demain dans En effet pour s'entendre. Je vous embrasse. Rendez-vous à 15h.
Vous écoutez RTL.